Chapitre 21. La saison du chagrin. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respires-en sur moi l'odorant souvenir. Marceline déborde Valmore. 1. Midwest. Le soleil tirait ses derniers feux lorsque Karadec arriva chez la veuve Kowalkowski. Le bâtiment principal était une maison trapue qui s'élevait sur deux étages, une ferme typique du Midwest, comme il en avait vu des centaines en remontant de Columbus jusqu'à Fort Wayne. Mais ce que Mark n'avait pas vu ailleurs, et qui faisait la singularité de la propriété, c'était la grange, un hangar à grains à la façade cramoisie et au toit blanc en forme d'ogive dont la silhouette imposante se détachait dans le ciel embrasé. Mark s'avança vers la maison, les yeux fixés sur le porche à la peinture écaillée qui se prolongeait tout le long de la façade. Il grimpa les quatre marches qui menaient à l'entrée. Sans doute à cause de la chaleur, la porte était ouverte sur une moustiquaire qui battait le vent tiède. Mark écarta le rideau de gaz et annonça sa présence.
« Madame Kowalkowski ?»
Il tambourina contre la vitre, et après avoir attendu une minute, il se décida à pénétrer dans la maison. L'entrée donnait directement dans le salon, une pièce qui respirait l'abandon. Murs décrépits, papier peint décollé, tapis élimés, meubles rafistolés. Recroquevillée sur un canapé en tissu vert amande, une femme dormait. À ses pieds, le cadavre d'une demi-flasque de gin bon marché. Mark soupira et s'approcha d'Hélène Kowalkowski. À cause de sa position, il ne parvenait pas à voir son visage. Mais peu importait son visage. Cette femme, c'était lui. Une déclinaison de lui. Un être brisé par le chagrin qui n'arrivait plus à émerger du plus profond de la nuit.
« Madame Kowalkowski, »
chuchota-t-il en lui secouant doucement l'épaule. Il fallut plusieurs minutes à la propriétaire des lieux pour se réveiller. Elle le fit avec lassitude, sans sursaut ni stupeur. Elle était ailleurs, sur un territoire que rien ne pouvait atteindre.
« Je suis désolé de vous déranger, madame. »«
Qui êtes-vous » demanda-t-elle en essayant de se mettre debout. « Je vous préviens, il n'y a rien à voler ici. Même pas ma vie. »
« Je suis le contraire d'un voleur. Je suis policier. »«
Vous venez m'arrêter ?»«
Non, madame. Pourquoi viendrais-je vous arrêter ?»
Hélène Kowalkowski chancela et retomba dans son canapé. Dire qu'elle n'était pas dans son état normal était un euphémisme. Ivre, sans doute. Peut-être même un peu stone. Malgré son apparence actuelle, elle n'avait plus que la peau sur les os, son visage était décharné et marqué de cernes grisâtres. On devinait la jolie fille qu'elle avait été autrefois. Une silhouette longiligne, des cheveux cendrés, des yeux clairs.
« Je vais vous préparer du thé, ça vous fera du bien, d'accord ?» proposa Karadec.
Pas de réponse. Le flic était décontenancé par son face-à-face avec ce spectre. Mais comme il se méfiait du réveil des fantômes et ne voulait pas se laisser surprendre, il vérifia qu'il n'y avait pas d'armes visibles dans le salon, avant de passer dans la cuisine. C'était une pièce aux vitres tachetées qui donnait sur un champ envahi d'herbes hautes. La vaisselle s'accumulait dans l'évier. Le frigo était presque vide à l'exception d'une boîte d'œufs et du compartiment congélateur qui était garni de flasques de gin. Sur la table, des tubes de médicaments, Valium, somnifère et compagnie. Mark soupira. Il était en terrain connu. Depuis longtemps, lui-même arpentait ce No Man's Land, le véritable enfer sur terre, où transitaient ceux qui ne supportaient plus la vie, mais qui, pour des raisons diverses, n'étaient pas résolus à la quitter tout à fait. Il mit de l'eau à chauffer et prépara une infusion avec ce qu'il avait sous la main. Du citron, du miel, de la cannelle. Lorsque Mark revint dans le salon, Hélène était toujours assise sur le canapé. Mark lui tendit la tasse de citron chaud. Il ouvrit la bouche, puis se ravisa. Expliquer à cette femme ce qu'il faisait chez elle lui apparut pour l'instant comme une tâche insurmontable. Hélène avait trempé ses lèvres dans la tasse et buvait l'infusion par gorgées minuscules. Les yeux vides, le dos voûté, entre accablement et lassitude. Elle était à l'image de la maison, fanée, figée, desséchée. Karadec pensa au modèle torturé du peintre Egon Schiele, à leur visage maladif, à leur couleur de peau jaunâtre qui en faisait des êtres plus morts que vivants. Mal à l'aise dans la maison assombrie, Marc ouvrit les stores et aéra le salon. Puis il jeta un œil à la bibliothèque, repérant des livres qu'il avait lui-même aimés et qu'il ne s'attendait pas forcément à trouver là, dans une ferme du fin fond de l'Ohio. Pat Conroy, James Lee Burke, John Irving, Edith Wharton, Louise Erdrich, même un exemplaire des calligrammes de Guillaume Apollinaire, publié par les presses universitaires de Californie.
C'est mon poète préféré, dit-il en s'emparant de l'ouvrage.
À cette évocation, le visage d'Hélène sembla s'animer. Dans son anglais aléatoire, Karadec continua à la mettre en confiance, lui racontant Apollinaire, les poèmes à Lou, la Grande Guerre, son propre grand-père mort au combat, la grippe espagnole, sa femme Élise qui était spécialiste de cette période, leur rencontre, comment elle l'avait initié et éveillé à l'art. Lorsqu'il eut terminé, le soleil s'était couché. La pièce était plongée dans l'obscurité. Et le miracle se produisit. Hélène lui abandonna à son tour quelques bribes de son histoire. Celle d'une bonne élève trop souvent obligée de rater les cours pour aider ses parents. Celle d'une étudiante prometteuse mariée trop jeune à la mauvaise personne. Celle d'une épouse au quotidien pénible, mais illuminée par la naissance de son fils, Tim, son seul bonheur dans la vie, avec les livres. Puis le gouffre, lors de la mort de Tim, et les années de ténèbres qui s'étaient ensuivies. Avant d'avoir les deux pieds dans la tombe, les gens ne sont jamais tout à fait morts, pensa Marc en la regardant. Bien sûr, c'était toujours plus facile de se confesser à un inconnu, mais Hélène parlait comme elle n'avait plus parlé à personne depuis longtemps. Lorsque le silence s'installa, elle se recoiffa avec ses longs doigts, telle une princesse un lendemain de cuite. Karadec en profita pour reprendre la parole.
« Si je suis ici, c'est pour les besoins d'une enquête. »
« Je me doutais bien que vous n'étiez pas venu de Paris juste pour mes beaux yeux, » remarqua Hélène.
« C'est une histoire à la fois très simple et très compliquée, » répondit Karadec. « Une histoire qui, depuis 10 ans, a détruit la vie de plusieurs personnes, et dont, indirectement, vous avez peut-être la clé. »«
Dites-m'en plus, » réclama-t-elle. Karadec entreprit de raconter leur quête à Raphaël et à lui, depuis la disparition de Claire. La métamorphose d'Hélène était progressive, mais bien réelle. Ses yeux s'étaient rallumés, ses épaules redressées. Tout cela ne durerait pas, ils le savaient tous les deux. Dès demain, elle replongerait dans un fleuve de gin et de vodka et se noierait dans les brumes médicamenteuses. Mais ce soir, elle avait de nouveau l'esprit clair et affûté. Suffisamment, en tout cas, pour être capable d'entendre toute l'histoire de la fille de Brooklyn et d'en digérer les circonvolutions. Suffisamment pour que, teintée de malice, la seule question qu'elle pose après le récit de Marc soit
« Donc, si je comprends bien, vous avez fait 1000 kilomètres depuis New York parce que vous cherchez un message envoyé par erreur sur la boîte mail de mon mari il y a 11 ans. »
« C'est ça, le 25 juin 2005 plus précisément, » répondit Karadec. « Mais j'ai bien conscience qu'en énonçant les choses comme ça, cela peut paraître absurde. »
Un bref instant, Hélène Kowalkowski sembla retomber dans la torpeur avant de se ressaisir et de mettre de l'ordre dans ses pensées. Depuis notre installation ici en 1990, nous avons une ligne téléphonique au nom d'Alan. Je l'ai conservée à sa mort, ce qui explique que vous soyez remonté jusqu'à moi grâce aux pages blanches. C'est la même chose concernant Internet. Nous avions pris un abonnement au nom de mon mari, mais c'était surtout pour faire plaisir à notre fils. Alan n'y connaissait rien en informatique. C'est Tim qui utilisait le mail et la connexion.
Marc reprit espoir. La vérité était là, dans cette maison, il le sentait, il le savait.
Si Tim avait reçu un mail étrange, il vous en aurait parlé?
Non, parce que cela m'aurait inquiété et qu'il cherchait toujours à me préserver.
Il en aurait parlé à son père?
Lourd silence.
Généralement, Tim évitait de parler à son père.
Ce compte, il est toujours valide?
Hélène secoua la tête.
Je n'ai plus de connexion Internet depuis la mort de mon fils. Ça fait donc presque 10 ans que cette adresse n'existe plus.
Cette fois, Marc accusa le coup. Les doutes s'insinuèrent dans son esprit. Son intuition lui avait joué des tours. Il repensa à l'étymologie du mot, un simple reflet dans une glace. Une affabulation, une chimère, une construction de l'esprit. Un instant, il se sentit vaciller avant de reprendre pied.
Hélène, est-ce que vous avez gardé l'ordinateur de votre fils ?